Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur le thème Un autre monde, ici et maintenant, et si la réalité dépassait vraiment la fiction. Alors d'abord un point très réel, Michal Eichfaes qui est assis là-bas va parler en anglais, donc si vous avez besoin de la traduction, vous connaissez le principe, vous récupérez un casque derrière vous là-bas à la régie. Alors pour nous parler de cette question, donc est-ce que la réalité peut dépasser la fiction? Nous avons 5 intervenants. Daniel Mej, à ma gauche immédiate, qui est chercheur sur la géologie des astres dans le système solaire essentiellement. Tu travailles à l'Université de Nantes et surtout au Centre de recherche spatiale polonais. Tu as développé un robot tout-terrain pour l'exploration des surfaces planétaires et tu as collaboré à diverses missions, en particulier la mission New Horizon qui vient de retourner les données, vous en avez peut-être entendu parler cet été, sur Pluton et Charon. À sa gauche, un deuxième scientifique, Jean-Sébastien Steyer, tu es paléontologue au CNRS, tu parcours la Terre à la recherche de fossiles, tu as dédié un livre sur les animaux qui étaient là avant, les dinosaures, et également un autre livre sur les animaux qui arpenteront la Terre plus tard, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une exposition qui est juste à gauche, là, donc en repartant, vous pourrez passer, qui sont les images que Jean-Sébastien et son collaborateur ont produites sur les animaux du futur. Tu es également chroniqueur, aussi bien dans Pour la Science que dans Bifrost, donc tu as vraiment les deux composantes. Et tu as participé à la conception d'une planète entière dans un petit bouquin qui s'appelle Planète Exquise, que je vous recommande chaudement, qui est un livre écrit à 8 mains avec messieurs Bordage, Demoule et Le Houk. Et donc chacun d'entre vous s'empare d'une partie de la planète et vous construisez à la fois au niveau science et au niveau fiction une petite planète. À ta gauche, Jean-Luc Marcastel, tu viens toi du sud de la France, tu n'as pas d'accent, contrairement à ton voisin, qu'on va découvrir bientôt, et tu es un romancier prolifique, tu as obtenu cette année le grand prix de l'imaginaire dans la catégorie du roman francophone pour la jeunesse, et dans ta nombreuse production, on se concentrera peut-être ici sur Prairie, qui est l'histoire de petits bonshommes qui vivent dans une partie microscopique de notre monde, une prairie avec des insectes, et donc qui ignorent qu'il y a quelque chose derrière le mur du bord du monde, donc ils ont leur réalité qui n'est qu'une fiction peut-être, enfin tu nous diras. À ta gauche, Éric Gauthier, tu es romancier et conteur. Oui. Tes histoires aussi bien, tu racontes tes histoires aussi bien sur le papier qu'en spectacle. Tu t'es produit sur de nombreuses scènes au Canada, en France et ailleurs. Deux de tes romans sont disponibles aux Utopiales, je crois. Ce sont Une fêlure au flanc du monde, pardon, et Montréal. Alors attention à la prononciation. Le public aura noté le jeu de mots avec Montréal. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Et remarquera facilement, dès que tu t'exprimeras, que tu viens du Québec.
Je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde ici a un accent.
C'est la réalité qui dépasse la fiction. Et notre dernier intervenant, Michal Eichfaes, et une figure de la littérature tchèque qui nous fait le plaisir de venir aux Utopiales cette année. Tu es traduit dans une quinzaine de langues, tu as reçu les prix les plus prestigieux, en particulier dans ton pays d'origine. En France, on a pu découvrir L'autre île, mais surtout et plus récemment L'autre ville, qui est paru aux éditions Mirobol cette année, mais que tu as écrit il y a plus de 20 ans, en fait. Tu connais Prague comme ta poche, tellement bien que dans ce roman, tu découvres la Prague secrète et un brin surréaliste, je dirais, au travers d'un livre qui est écrit dans un alphabet inconnu. Donc ça, c'est ce que tu racontes dans L'autre ville, avant d'aller explorer d'autres endroits dans d'autres romans qui sont malheureusement pas traduits en français. Qui le seront peut-être un jour. Tu es romancier, poète, essayiste et philosophe. Tu joues donc nécessairement avec la réalité à plusieurs niveaux. J'ai noté que ta page Wikipédia en anglais, méfions-nous quand même de Wikipédia, dit que tu es un représentant du mouvement du Magic Realism, qui résonne peut-être particulièrement avec le thème de la conférence de ce soir. Donc on l'évoquera tout à l'heure. Donc voilà, tous les cinq, vous allez nous parler de est-ce que la réalité peut dépasser la fiction. Et peut-être pour commencer, on peut peut-être s'attaquer à nos deux scientifiques, et donc à deux questions assez concrètes, dans lesquelles la réalité a peut-être dépassé la fiction, ce sera à vous de nous donner la réponse, qui sont la composition des planètes pour Daniel et les formes animales pour Jean-Sébastien. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer, peut-être Daniel. Alors, on peut dire que les auteurs de science-fiction ont commencé il y a très longtemps, en fait, les tout premiers, on peut dire, par inventer des astres proches de nous qui ressemblent pas mal à la Terre. Il y avait des Sélènes sur la Lune, des Martiens sur Mars. On a calqué un petit peu notre réalité sur les astres. avant que la science dise « mais non, c'est sûr, il n'y a pas de sélène, il n'y a pas de martiens sur Mars », et qu'on se concentre plus sur des scénarios plus hostiles de terraformation et des choses comme ça qui sont très scientifiques et assez peu fictionnelles, je dirais, donc plus, plus réelles que fictionnelles. Et puis peut-être aujourd'hui, et c'est ça la, la question que je te pose pour démarrer, peut-être qu'aujourd'hui la réalité a peut-être l'air de dépasser un petit peu la fiction. Vous savez, vous avez entendu parler qu'on trouve de plus en plus d'eau dans le système solaire, et puis cette semaine ou la semaine dernière, il paraît qu'on a trouvé même de l'oxygène sur une comète. Donc est-ce que ces informations que nous ramènent les sondes diverses et variées ne sont pas en train de remettre de dépasser ce qu'on pensait de cet désastre et de nous ouvrir des perspectives nouvelles et peut-être fictionnelles? Daniel?
Oui, en effet, tu parlais de la comète Churyumov-Gerasimenko visitée depuis un an par Rosetta. Et la semaine dernière, de l'oxygène a été découvert, non pas sur la comète, mais dans la queue de la comète, qui donc provient de la comète, hein, mais qui n'est pas directement sur la comète. Et cet oxygène pose un problème, car dans la queue de la comète, on trouve un certain nombre de choses, de molécules. On trouve de l'eau, par exemple, assez facilement, mais de l'oxygène, ça pose problème parce que l'eau cométaire peut provenir assez facilement de l'origine du système solaire, là où les comètes viennent, beaucoup de glace d'eau s'est formée. Par contre, l'oxygène a dû se former à peu près dans les mêmes régions très éloignées du système solaire, mais l'oxygène a dû se combiner rapidement avec l'hydrogène, justement pour faire de l'eau. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'eau dans les queues cométaires, c'est parce que l'oxygène et l'hydrogène étaient en abondance. Et donc, lorsque l'on trouve de l'oxygène en relativement grande quantité, il n'y en a pas énormément dans la queue de cette comète, il y en a par exemple 3% de, par rapport à l'eau, H2O, donc c'est pas, enfin c'est significatif tout de même, et c'est d'autant plus significatif qu'on ne sait pas quoi en faire de cette eau. Les auteurs de cette étude ont travaillé dur pour essayer de comprendre si cet oxygène pouvait juste s'être formé là maintenant dans la queue de la comète, ou alors si cet oxygène provenait était déjà là dans la comète depuis le début du système solaire, 4 milliards et demi d'années. Et apparemment, la solution la plus réaliste vu les données est que cet oxygène date du début du système solaire et donc se libère au fur et à mesure que la comète se rapproche du Soleil, hein, elle libère un certain nombre d'éléments et il y a cet oxygène qui est libéré. Et ça pose donc des problèmes. On ne sait pas faire, au début du système solaire, de l'oxygène libre. Voilà, donc on va être sans doute obligé de revoir assez en profondeur les scénarios du début du système solaire.
Est-ce que ça peut inspirer nos auteurs de science-fiction pour avoir des planètes avec de l'oxygène, de l'eau, qu'on puisse y aller un peu plus facilement?
J'espère bien, mais là, on n'est pas dans le cas d'une planète, on est dans le cas d'une comète. Et une comète, c'est très petit, la gravité est à peu près nulle, on peut le dire. Hein, c'est-à-dire que même pour les missions robotisées actuellement, les comètes posent un problème redoutable. On l'a vu d'ailleurs avec Rosetta qui avait un atterrisseur Philae qui s'est posé sur la comète avec donc toute la technologie moderne dont on est capable. Et cet atterrisseur n'a pas réussi à atterrir comme il le fallait sur la comète. Il a rebondi un certain nombre de fois, deux, trois fois. Et finalement, il a atterri à un endroit qu'on a eu beaucoup de mal à localiser parce que la gravité est tellement faible que le comportement de tout ce que l'on peut y envoyer, y compris nous-mêmes, est très difficile. Si on n'est pas attaché nous-mêmes solidement à un bout de caillou d'une comète, on a toutes les chances, simplement en levant le bras en l'air, de s'échapper de la gravité de la comète. Donc voilà, pour la science, pour les auteurs de fiction, je pense que c'est assez stimulant pour l'imagination.
On remet à jour nos connaissances tout le temps, de toute manière, et ça apporte tout le temps de l'eau au moulin, d'avoir de nouvelles découvertes. Je sais qu'une de mes lectures obligatoire, c'est Science et Vie ou des journaux comme ça où on apprend à chaque fois de nouvelles choses et de nouvelles découvertes, et puis comme ça, ça donne des idées souvent.
Alors, est-ce que tu dirais que parfois la réalité dépasse la fiction ? Est-ce que tu vois dans Science et Vie des choses que tu n'aurais jamais imaginées d'un point de vue fictionnel et littéraire ?
Oui, bien sûr, il y a plein de choses où on se disait, où des fois on invente des choses, puis on dit, mais attends, mais ça va encore plus loin que ce que je pensais. Des choses extraordinaires. Je n'arrive pas, je me rappelle plus, la dernière fois où ça m'a fait, mais il n'y a pas très longtemps, pareil, j'étais en train de lire, je ne me rappelle plus. Il y avait un article pareil où, sur les supercordes, par exemple, sur la théorie des supercordes, qui allait encore plus loin. On se dit, mais tiens, oui, ça, effectivement, je n'y avais pas pensé. Ça donne des idées pour de nouvelles choses, d'aller voilà, toujours plus loin, où je me rappelle. Ça va engendrer, on dit tiens, ça oui, on pourrait tirer le fil à partir de ça, quelle idée ça pourrait donner que j'avais pas encore eu, ou des fois ça réactive d'anciens scénarios qui étaient un peu des fois dans des impasses, et boulot soudain, ça, ah oui, tiens, ça pourrait.
Mais justement, est-ce que je peux venir est-ce que des fois les auteurs de science-fiction ne se briment pas un petit peu du point de vue de l'imagination, puisque finalement il faut attirer un lecteur, et pour attirer le lecteur, il faut quelque chose d'assez proche de lui. Et donc, si on fait une œuvre de fiction qui est finalement trop éloignée de ce qu'est le lecteur, de ses centres d'intérêt ou de quelque chose qui lui est bien connu, on a du mal à.
Non. Ça risque de nous entraîner un petit peu loin de notre sujet, mais c'est vrai que moi, ce que je constate actuellement dans l'imaginaire, on en parlait un petit peu avant, un petit peu à midi, quand on préparait la conférence, c'est qu'on se rend compte que des fois la science-fiction connaît une certaine désaffection en ce moment. Peut-être, moi c'est mon analyse à moi, qu'il faut se projeter ou avoir des connaissances parfois, ou se projeter dans des avenirs très lointains, des mondes très lointains. Et ce que des fois des gens sont perdus, hein, soit ils n'ont pas les connaissances scientifiques, soit c'est vraiment trop bizarre, trop différent de ce qu'ils connaissent. Et il est parfois plus facile ou plus rassurant de se projeter dans des passés légendaire où on parlait tout à l'heure de l'Uchronie ou des choses comme ça, où on a déjà une base à laquelle se raccrocher. C'est vrai que là, tout de suite, il faut faire effort d'imagination pour se projeter dans un monde totalement nouveau où tout est inventé, quoi, finalement.
On reviendra là-dessus avant de. Oh, tu voulais. Non ? Donc avant de revenir là-dessus, on va parler un peu de tes travaux, Jean-Sébastien. Donc, comme je disais, toi, tu inventes les animaux du futur et tu as observé les animaux du passé. Et moi, j'ai vu certaines des images et quand je les vois, j'ai vraiment l'impression là que la réalité dépasse la fiction, en particulier sur les animaux du passé, mais même aussi sur ceux du futur que tu as modélisé. Il y a des bestioles qui ont des formes. Je pense qu'aucun auteur de science-fiction n'aurait pu les imaginer.
Oui et non. Oui, dans le sens où c'est vrai que la paléontologie est une source inépuisable en tant que réalité du passé, de matériaux bruts pour nourrir en fait la fiction. La paléontologie, presque par définition, c'est une science, je ne devrais pas dire ça devant les collègues, mais c'est une science fictionnelle dans science où on reconstruit des mondes perdus. Donc on est en plein Conan Doyle, on est en plein reconstitution imaginaire et imaginée à partir de données scientifiques, hein, de fossiles qui sont réels, qui sont des vestiges d'organismes du passé qui nous arrivent aujourd'hui. Et l'imagination dans la paléontologie est nécessaire pour reconstruire en fait ces mondes disparus. Alors dans le jargon scientifique, ça s'appelle les paléo-environnements, ça s'appelle la paléoécologie, mais l'un ne va pas sans l'autre finalement. Et puis quand je me projette, moi, gamin, avant de devenir paléontologue, on m'avait par exemple offert un livre de Zdeněk Burian, qui était un paléo-artiste tchèque mondialement connu aujourd'hui, qui m'a biberonné pendant les années 70-80, et je m'imaginais, gamin, rentrer dans l'image et être acteur en fait de ces mondes perdus. Et puis c'est resté dans un petit coin du cerveau quelque part, et puis j'ai la chance aujourd'hui d'en faire ma profession. Donc c'est vrai que quand on reconstruit ces mondes perdus, que ce soit des dinosaures ou ce qui se passe avant ou ce qui se passe après, finalement on s'en fiche un peu de l'époque, le plus important c'est que ça n'existe plus aujourd'hui, mais que c'est réel. Et c'est cette dimension temporelle qui finalement nous échappe à nous, parce que notre unité de temps en paléontologie ou en géologie, c'est le million d'années. En tant qu'humain, un million d'années, c'est difficile à concevoir. L'unité de temps en astrophysique, c'est le milliard d'années, ou c'est l'année-lumière, c'est encore plus considérable. Donc il y a aussi cette espèce de manipulation d'unité qui nous transcende quelque part. Et quand on reconstitue en fait ces mondes perdus, on travaille avec des artistes. Alain Beneteau, par exemple, est illustrateur en paléontologie. Marc Boulet est auteur principal des Animaux du futur. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ça fait des années qu'on se côtoie, qu'on travaille. J'envoie mes données brutes, mes planches anatomiques, mes planches ostéologiques, en fait, de description du fossile, vue palatale, vue antéro-postérieure, vue de derrière les fagots, etc. Donc tout ça est très formaté pour publier. Surtout quand on est chercheur au CNRS où on doit publier tant d'articles par an dans telle revue scientifique indexée, sinon c'est pas bien, tu n'auras pas de crédit l'année prochaine parce que tu n'es pas un chercheur productif, etc. Bon, je vous passe un petit peu le contexte malheureusement français de la recherche actuelle, mais je nourris les artistes de ces données factuelles qui sont des données chirurgicales, si vous voulez, des fossiles, et eux me renvoient en fait une reconstitution en 3D ou en 2D d'un organisme que j'étudie. Et c'est ce qui a donné la puce à l'oreille à Marc Boulet, qui est donc encore une fois l'auteur principal des Animaux du futur. Il m'a dit, mais j'avais déjà travaillé sur la biologie spéculative, c'est-à-dire imaginer des formes de vie fictives. Est-ce que ça te dirait de continuer cette aventure avec moi? Voilà, donc... Alors, je ne dis pas que la paléontologie, c'est de la biologie spéculative. Hein, ça reste une discipline scientifique avec une méthodologie, on appelle ça hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses. Les dinosaures ont disparu ou pas. Où ils ont disparu? Quel était le dernier dinosaure non-avien? Parce que je mets les oiseaux à part, hein, quand je parle de dinosaures au sens très large. Quelle est l'origine des dinosaures, par exemple? On fait des hypothèses et puis on va sur le terrain, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en France aussi, pour essayer d'infirmer ou de confirmer en fait ces hypothèses-là. Donc on reste quand même dans la méthode scientifique, mais il y a une part d'imaginaire qui est non négligeable.
Alors est-ce que ça dépasse la fiction ou pas? Est-ce que tes images dépassent, enfin les images de Marc et de toi dépassent les...
Ben, un petit peu, parce que il y a des formes quand même vraiment bizarroïdes. Ça dépend où on place le curseur entre la réalité et la fiction. Quand vous êtes il y a 550 millions d'années dans les océans et que vous explorez, en fait, vous faites de la plongée sous-marine au Cambrien, donc au début de l'ère phanérozoïque, lorsqu'il y a des organismes marins qui peuplaient notre océan à l'époque, vous allez rencontrer des formes de vie qui n'existent pas, qui n'existent plus en fait aujourd'hui, qui sont complètement hallucinantes. Tellement hallucinante qu'on ne sait pas encore trop aujourd'hui comment orienter certaines formes. Je pense par exemple au genre Hallucigenia, qui porte bien son nom, qui a été nommé par les collègues sans être sous LSD. Hein. Et on ne sait pas si les piquants sont dorsaux ou ventraux. On ne sait pas dans quel sens en fait l'animal évoluait dans un milieu sableux. Donc là, effectivement, on est un petit peu au-delà de la réalité. On touche presque à la fiction. Et on essaye d'ancrer cet imaginaire en fonction d'autres données qu'on va obtenir avec d'autres fossiles complémentaires, etc.
On se demanderait presque si ce n'est pas une blague qui vous a été laissée. Je vais me tourner vers Michal. Donc, comme je disais tout à l'heure, on trouve sur Wikipédia que tu es un représentant du Magic Realism. Et je me demande si, dans une certaine mesure, et je pose d'abord la question, mais on pourra la poser à tout le monde, si parfois on ne trouve pas dans la réalité... une magie qui permet de dépasser toutes les fictions. Et je crois que dans ton roman L'autre ville, c'est un peu ça le point de départ de cette aventure de ton personnage qui découvre une nouvelle Prague.
Yes. I must say the first time, first place that I have two groups of my favorite writers. The one group is it's writers who are characterized with a sharp vision of reality. It's authors like, for instance, Marcel Proust. The other group are the fantastic imaginative authors like, for instance, Lewis Carroll or André-Pierre de Mandillard. And there are also writers who belong to both of those groups. It's, for instance, Franz Kafka, or from French literature, Julien Gracq. And I don't like. I think that imagination and reality are not opposite, and it's good when there is a certain tension between imagination and the reality in literary work. Some people think that imaginative works are sort of escape from reality because reality is boring and so. I don't think so. I think that reality is very interesting, is magic. Very interesting is also scientific discovering of different areas of reality, and I'm very interested in natural sciences and in physics, biology. I think that the real imaginative work has to be born of the perception, of the sharp, precise perception of phenomenons of reality. When I write a book, so in the very beginning of my writing, I have no idea and I don't know what the story will be. I don't know nothing, but in the beginning I need to have some encounter with some concrete phenomenon of real world. It's mostly it is encounter with some place. And it's, for instance, this my book, The Other City, which was now translated into French this year. In the beginning of the writing of that book was that it was in winter in Prague, and it was much snow in Prague, which is rather exceptional. But and I was going across a small place in Prague, which was covered with snow. And I had a strange, very strange and nice magic feeling of that place. And at that moment, I knew that from that feeling, I can make a book. I had feeling that in that simple feeling, there are hidden many, many images, stories, and that it will be enough that when I put them or take them everything from that, extract them from that feeling where they were hidden. And it was with my other book, it was similar. And so I think that to write books of imagination is, as I said, not escape from reality. And people who write imaginative books don't do this because they hate reality or because reality is boring for them. It's a sort of honor to reality, to phenomenons.
Thank you very much. Eric et Jean-Luc, quelle est la part de la réalité pour vous dans le processus d'écriture? On a vu pour Michal que c'était le point de départ, au moins pour L'autre ville, et je crois même pour ses autres romans. Pour vous, est-ce que la réalité, les choses qui vous entourent, jouent un rôle très fort d'inspiration comme pour Michal ou pas?
Pour moi, ça devient un mélange à un moment donné. J'aime comment est-ce qu'il peut y avoir une interface un peu floue entre la réalité puis la fiction. C'est certain que je vais lire les nouvelles, je vais être très, très observateur de tout ce qui m'entoure pour informer mes histoires, mais c'est plus complexe que ça. Et puis pour ça, il faut peut-être que je vous explique. Je suis écrivain, mais je suis aussi conteur. Et puis comment je suis devenu conteur, c'est une drôle d'histoire. Je me suis promené un peu, j'ai vécu à différents endroits au Québec, en Ontario. J'ai déménagé un jour à Montréal, et puis à Montréal, j'avais besoin d'apprivoiser la ville. Alors, deux jours, je me cherchais un emploi. Le soir, je sortais dans les bars. Quelle meilleure manière de rencontrer les Montréalais. Et puis, comme je ne connaissais pas très bien les bons bars, je me suis retrouvé un soir dans un bar un peu miteux, un peu mal famé. Le barman portait des gants. Ce serait une autre histoire encore. C'est un bar un peu miteux, un peu... La situation est devenue tendue à un moment donné dans la soirée. Il y a une bagarre générale qui a éclaté. Et puis, dans la confusion, j'ai été mordu par un compteur. Et depuis ce temps-là, quand c'est plus fort que moi, quand la lune se lève, je deviens compteur à mon tour. Et puis, j'ai appris, donc j'ai commencé à raconter des histoires à gauche, à droite, sur des scènes, dans des petits bars, dans différentes occasions. Et j'ai vite pris plaisir à mélanger la réalité puis la fiction dans ma manière de compter, mais dans ma manière de me présenter aussi. Donc, quand j'ai devant un public, je me bâtis un peu un genre de mythologie personnelle. Je leur raconte comment est-ce que j'ai été invité à un festival de contes en Acadie, ce qui est strictement vrai. Et puis qu'à cette occasion-là, j'ai attrapé un orignal, un élan d'Amérique, je crois. J'ai attrapé un élan à main nue. Et puis, mon grand plaisir là-dedans, c'est de commencer dans la réalité et puis de passer dans la fiction sans que le public soit capable de trouver le point exact où est-ce que j'ai basculé d'un à l'autre.
Ça, c'est un processus que tu utilises systématiquement quand tu comptes. Tu démarres en parlant je sais pas, d'une chaise, de n'importe quoi qui est autour de toi, et tu glisses vers la fiction ou
C'est pas systématique. J'ai certaines histoires où est-ce que c'est clairement de la fiction d'un bout à l'autre. J'arrive sur scène, je dis la première phrase de mon histoire, puis on est dans la fiction. Mais souvent je vais trouver. J'ai plusieurs histoires où est-ce que je trouve un moyen de faire un lien avec ma vie, de faire un lien avec mes expériences, et puis de mettre dans l'histoire des détails véridiques, bien, ça aide à asseoir la réalité des parties fictives de l'histoire.
Jean-Luc, pour toi, la place de la réalité dans ta fiction?
C'est toujours le point de départ. Je vois, par exemple, on parlait de Prairie tout à l'heure, qui se déroule, tu parlais, qui déroule dans un champ où une société humaine d'hommes miniaturisée par erreur suite à une expérience qui a mal tourné. Il y a 20 ans de ça, on fondait une société qui survit en état de siège permanent au milieu des insectes. Des gens qui font la taille d'une fourmi. Et donc, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'allais en vacances, tu vois, dans les Cévennes, dans le sud de la France. Donc, il y a une variété, on va dire, au niveau des insectes, etc., qui est assez extraordinaire. On trouve des araignées monstrueuses, comme des lycoses, des choses comme ça, des très grosses araignées, des scorpions, etc. J'étais fasciné par ces bêtes-là et je ne pouvais pas m'empêcher, étant gosse, de me dire, mais si on faisait cette taille... Voilà, comment une araignée, ça nous paraîtrait. Et puis alors, du coup, ça amène plein d'autres questions. C'est de se dire, mais si on faisait cette taille, attends, du coup, la gravité universelle, elle ne change pas. Mais par contre, nous, l'impact que ça peut avoir sur nous, si on était si petit, avec une masse si petite, va changer beaucoup de choses. On pourra tomber, par exemple, de très haut, de la hauteur de cette taille, de cette salle, sans forcément se tuer en bas, parce que le frottement de l'air fera que ça va nous freiner suffisamment. On n'atteindra jamais une vitesse suffisante pour se tuer à l'impact. Ce qui veut dire que les fourmis n'ont aucun mérite quand elles tombent de très haut. On se dit, ouais, elles sont tombées de très haut. Ouais. On pourrait, par exemple, glisser à la surface de l'eau, tout simplement à cause de la tension de surface qui fait une espèce de pellicule à la surface de l'eau. Et par contre, contrairement, se retrouver piégé dans une goutte d'eau si on perd cette pellicule et qu'on se retrouve piégé à l'intérieur et mourir noyé dans une simple goutte d'eau. Et donc, je me dis, mais voilà, ça ouvre un champ de possibilités énorme. Et puis, ça donne des idées scénaristiques pour l'histoire qui sont très, très intéressantes. Et puis, bon, moi, par exemple, dans cette histoire-là, c'est de réduire à un microcosme les problèmes de notre société. Puisque cette société-là, il y a des prêtres qui ont pris le pouvoir, qui imposent une loi de fer à ces gens-là. Et puis, qui leur disent, voilà, on était des géants il y a très, très longtemps, mais on a été réduits à cette taille-là. C'est notre purgatoire, en quelque sorte. Si on veut redevenir les géants que nous étions, qui ne craignent pas les insectes, enfin les carapates, ils appellent ça, eh bien, il faut qu'on soit méritant dans notre vie, etc. etc. Donc, le muret de pierre sèche qui entoure ce champ, ils disent, voilà, ça, c'est le mur des bords du monde. De l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a que le néant. Et donc, et en plus, c'est gardé par des terrifiants gardiens qui sont les lézards et qui, pour eux, sont de véritables dragons. Quand on fait la taille d'une fourmi, vous imaginez ce que peut devenir un lézard vert qui fait cette taille-là. Et donc, ben, ces gens-là croient qu'effectivement, derrière ce mur, il n'y a rien. Et donc, à un moment donné dans l'histoire, ils vont être amenés à aller en haut de ce mur, enfin, certains d'entre eux, et vont découvrir, ben, ma foi, que derrière le mur, ben, il y a quelque chose, il y a un autre champ. Et après un autre, et ainsi de suite.
Tu voulais réagir?
Ah non, j'aimais l'image. C'est une espèce de découverte de l'au-delà à ce moment-là, l'au-delà du muret.
C'est tout à fait ça.
Mais dans vos trois histoires, je crois, le mot autre, alors dans le roman de Michal, c'est même le titre, le mot autre est apparu plusieurs fois. Et moi, j'étais sur une table ronde plutôt dans le festival où on a fini par conclure que l'autre était le réel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas, quand on a par exemple des scientifiques à côté de nous, on se rend, et que des fois on discute avec des scientifiques de tel ou tel domaine, on se rend bien compte que la préhension qu'on a nous de la réalité en tant que monsieur lambda est des fois totalement erronée. Enfin, je veux dire, les gens par exemple, avant de savoir, même encore, même de nos jours, même nous qui savons, quand on arrive devant un mur, tout ce qu'il y a de plus solide, ou qu'on se le prend dans la tête, la porte, quand on fait pas attention, on n'a aucune idée de se dire que le mur est composé en grande partie de vide. De savoir que ce sont des atomes qui sont, si les scientifiques nous le disent pas, si on, voilà, on découvre une autre facette de la réalité qu'on n'imagine même pas, et donc qui ouvre là encore une fois des champs à l'imagination qui est extraordinaire. Donc le réel, le vrai réel, est un territoire d'expérimentation pour nous auteurs et d'imagination.
Je trouve que l'autre peut être une manière pour nous de calibrer notre perception de la réalité. Quand on se heurte à des choses qui sont différentes, à des gens qui entretiennent des croyances différentes, ça nous fait comprendre à quel point notre vision du monde est limitée, combien notre vision du monde inclut peu de choses. Et puis, donc s'exposer à l'autre, ça permet de... ça ouvre des nouveaux territoires, et puis on peut décider à ce moment-là de s'aventurer ou non dans ces territoires-là, et puis d'élargir notre réel.
Michal, I don't know if you want... je peux rester en français. L'autre, alors, l'autre ville, l'autre île, c'est deux de vos titres. Est-ce que l'autre, quel est le rôle de l'autre, de ce qui nous renvoie par rapport à la question, est-ce qu'on est dans la fiction, est-ce qu'on est dans le réel, est-ce qu'on est dans la magie?
I think for me maybe more interesting that than to create new things and new beings in literature is literature which is creating new worlds, and I think that another world, it's something which is I would say totally other than our world. For instance, such a other world is created in one story by Borges, who it's a Tlön Ugbar and Orbis Tertius, and he writes there about a world. It's the world is created by some man, but it is created completely, and it's not other in the sense that there are other people and other animals there, which is not so radical otherness, but the radical otherness of this other world is that in this world there is a completely another perception of world, the languages are completely different, and I think it's something very important for us, because we have to realize that our perception of reality is very restricted, limited, and we somehow don't realize it. We think that the world is as we see it, but some, for instance, Indians in South America, live in another world and see another world. And who may decide that our world is the right world or their world is right world? I think that this we speak about changing reality, but I think that for us, we need more the changing reality. More important for us is to change our mind, and it means to realize that our, as I said, that our perception of world is limited, and to try somehow something to do with that limitation. And I think there are several ways leading to that goal. Yeah, I think one way is a dialogue with other culture. For instance, for me, it's very interesting Japanese culture, which is very.
It's different.
Different from us. The other way is perception of art, because one of tasks of the art, I think, is this changing and broadening of our vision of world. And third way may be some meditation or techniques like this. And I would say only one thing, that I have published two books in French translation, and the other book, the original name in Czech was The Golden Age, but it's the book which was translated with title Rotter Eel, another island. And I tried there to create absolutely a different world than our world is. Yeah, so it's a sort of travelogue. Created an island with a specific civilization, and the book is sort of anthropology of this people, which who have almost everything different from us: language, political organization, cuisine, and everything. So, and I want to say that books like this, I think, it's not only to show something different which has nothing to do with our world, but the aim of books like that is also to realize that our vision of the world is limited, and it is not the only possible. And this realization can lead to that we can overpass our of course not absolutely, but a little bit overpass our limited perception of world.
Yeah. On s'aventure un petit peu là dans les façons de changer la réalité. Je pense qu'on a eu longtemps on nous a longtemps dirais-je que la réalité était immuable, qu'on pouvait pas la changer, que c'était la chose qui était autour de nous qui avait pas de frontières, qui était immuable. Ce qui est peut-être un point de vue assez pessimiste. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de peut-être de vivre un changement de situation? Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser un peu ça? Est-ce qu'on n'a pas des moyens maintenant de changer la réalité? Donc Miral en a évoqué deux ou trois à l'instant. En particulier avec plusieurs choses, la réalité virtuelle par exemple, mais aussi la littérature. C'est-à-dire, est-ce que quand vous écrivez ou quand vous comptez vos histoires, est-ce que vous n'avez pas l'impression de changer la réalité autour de vous? Et pour les scientifiques, peut-être quand vous découvrez des choses nouvelles, Est-ce que vous avez l'impression de subir la réalité ou plutôt de la faire, de la transformer? C'est très subjectif, comme évidemment comme point de vue, mais j'aimerais bien avoir vos.
Moi, je sais que pour moi, il est évident qu'à partir du moment où on s'est rendu compte que grâce, par exemple, à la technologie, grâce aux ordinateurs, on était capable de construire des réalités virtuelles, on a commencé inversement à se poser la question de savoir si notre propre réalité n'était pas finalement une projection virtuelle faite par quelqu'un d'autre ou voilà.
The Matrix.
C'est venu, à partir du moment où on a la possibilité technique de le faire, tout à coup, on a inversé le truc en se disant, mais si on peut le faire, d'autres ont peut-être pu le faire. Et donc, nous, alors, finalement, ce qu'on vit tous les jours, est-ce que... Ce qui renvoie à l'idée même, de toute façon, que toute réalité est une... Enfin, toute notre perception de la réalité est forcément la nôtre. Donc, elle est arbitraire.
En tant que scientifique, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais parfois, il m'arrive de penser que la réalité, finalement, on la construit. Et j'y ai pensé plusieurs fois... parce que je ne travaille pas seulement sur les autres planètes, mais aussi sur la Terre, et je me suis rendu en différentes occasions dans des endroits particulièrement peu explorés pour la géologie, puisque je suis géologue. Et donc je me suis retrouvé dans des endroits dans lesquels finalement aucun géologue n'était venu, je crois, simplement. Et alors je me trouve face à des paysages qui n'ont jamais été analysés, à des montagnes dont une carte me dit qu'il s'agit de telle roche, alors qu'à l'évidence, il s'agit de quelque chose d'autre. Des cartes topographiques complètement fausses, et ainsi de suite. Et finalement, chaque fois que j'avance dans un endroit comme ça, c'est, en l'occurrence, c'est en Éthiopie, où je travaille beaucoup, du côté du rift africain en particulier. Le rift africain est très étudié, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu du rift africain, finalement, ça n'intéresse pas grand monde. Donc c'est là où j'aime bien me rendre. Donc j'explore un peu ces coins-là, et tout ce que chaque fois que je tape sur un caillou, finalement, je construis d'une certaine façon la réalité, parce que je l'identifie, je vois ce que c'est, je comprends qu'à cette époque-là, j'étais sur une plage, ou alors que j'étais dans un océan profond, ou alors que j'étais en plein milieu d'un volcan. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, sur mon vrai chemin, le chemin que chacun peut suivre par terre, eh bien je construis la géologie du coin, et donc je construis la réalité d'aujourd'hui à partir de ce qui s'est passé il y a des centaines de millions d'années ou des dizaines de millions d'années, et je peux faire des suppositions sur ce qu'il en sera dans aussi un certain nombre de millions d'années. Donc d'une certaine façon, on la construit un petit peu là. En tant que scientifique, enfin, ça fait un petit peu mégalomane, mais enfin, c'est un peu pour ça que les géologues sont géologues, c'est parce qu'on aime aussi bien les histoires, et on aime bien se faire notre propre histoire à partir de ce que l'on voit. Et par exemple, ici à Nantes, où est-ce que l'on marche? Finalement, on marche par terre, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça pour un géologue. Ici, là où nous sommes, c'était, il y a 300 millions d'années, une chaîne de montagnes aussi grande que l'Himalaya, aussi haute, peut-être plus longue. Et ici, on est à plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface topographique à cette époque-là. Et puis auparavant, on était en plein milieu d'un océan, et de l'autre côté de l'océan, il y avait le massif central, ainsi de suite. Donc finalement, on se fait notre petite réalité. On espère, on fait de sorte, on essaie de la rendre réelle, on essaie bien sûr de trouver des arguments rationnels. Mais finalement, il y a toujours ce côté histoire qui nous plaît bien. On construit une histoire, je ne sais pas
ce que... Ça doit être assez similaire pour un paléontologue, non ?
Oui, je pense que c'est similaire en fait pour... Tout ce qui est exploration, c'est un petit peu le leitmotiv de l'exploration, c'est par les disciplines complémentaires ou différentes apporter sa petite brique de connaissances qui va participer à l'interprétation du réel que l'on peut ensuite transcender ou pas par la fiction ou les fictions ou d'autres types d'interprétations aussi en fonction d'autres sens. Je pense par exemple au bestiaire océanique, on en a parlé ce matin, bon, le bestiaire océanique des abysses en fait sur Terre est très peu connu et laisse la place aussi à beaucoup d'imaginaires. Et c'est à force d'explorer à coup de bathyscaphe, à coup de caméras embarquées dans un premier temps et peut-être même d'explorateurs humains dans un deuxième temps, apporter ces petites briques de connaissances, que ce soit en termes de géologie, d'écosystèmes ou de morphologie extraordinaire, pour ensuite finalement compléter nos connaissances sur le réel et nourrir... des trames fictionnelles et ancrer aussi dans l'histoire la réalité qu'on observe aujourd'hui. que ce soit en géologie ou en paléontologie, on a une dimension temporelle qui rajoute un côté chronologique, un côté historique, et qui peut aussi nourrir les fictions, notamment quand tu parlais d'histoire dans l'histoire. En fait, rajouter une histoire dans une fiction, c'est augmenter le degré de réalisation possible, finalement, de la fiction. Tolkien le faisait très bien, par exemple, en intégrant dans son œuvre presque une mythologie que lui-même avait inventée pour enraciner, en fait, dans le temps et dans l'espace, tout son monde, sa terre du milieu, etc. C'est une clé, en fait, fictionnelle assez classique, finalement, mais très importante. Utiliser même les méthodes scientifiques réelles pour asseoir, en fait, la crédibilité de la fiction.
Et toi, Eric, est-ce que tu trafiques le réel, alors?
Souvent, souvent. Mais le réel, je vois comment c'est quelque chose qui... dans un sens, le réel tient à sa complexité puis à la densité d'informations. Si le Seigneur des Anneaux a survécu, a touché tant de fans, c'est en partie parce que c'est un monde pleinement réalisé, c'est en partie parce qu'on a une grande quantité d'informations au sujet de ce monde-là. L'auteur en parle en parfaite connaissance de cause. Et puis, la réalité nous paraît réelle parce qu'on est capable d'apercevoir jusque dans les moindres petits détails de ce qu'on touche, de ce qu'on voit. Il se passe quelque chose de particulier là où la réalité va en se complexifiant peut-être, ou notre perception de la réalité, parce qu'on l'étudie scientifiquement, on se la raconte de différentes manières. On est en contact maintenant avec tous les peuples du monde. On sait ce qui se passe à l'autre bout de la planète aussitôt que ça se passe, ou presque. Et puis tout ce flot d'informations-là qui nous arrive, ça rend notre réalité un peu plus complexe, un peu plus détaillée, d'un jour à l'autre et puis d'une heure à l'autre. On atteint tellement des sommets de complexité puis des sommets de détails qu'on n'est pas capable de tout l'appréhender. On se trouve à devoir choisir quels détails on va regarder, quels détails on va assimiler. Et puis, du moment qu'on fait des choix comme ça, il y a peut-être une part de fiction là-dedans. Comme on n'a pas un portrait total de la réalité, bien on a notre représentation de la réalité qui peut se rapprocher de la fiction dépendamment des détails qu'on choisit d'adopter.
Alors le temps passe en fait extrêmement vite, il nous reste 9 minutes. On va demander des questions dans le public. J'en ai moi une anecdotique pour toi, Eric. Ton Montréal fictionnel, qui est assez fictionnel, si tu l'as appelé Montréal. Qu'est-ce qui t'a pris?
Ben, je voulais déjà simplement, je voulais signifier que c'était une version dans un monde parallèle de la ville de Montréal. Donc, j'ai choisi un nom qui était semblable, et puis c'était trop beau de pouvoir simplement changer une lettre. Que ça puisse être entendu comme Montréal, c'est un accident, mais un accident dont j'ai pris conscience et puis que j'assume. Je vis dans un monde fantastique. Je suis un homme plutôt sceptique. Je ne vais pas croire aux fantômes gratuitement, mais je garde en tête la possibilité que toutes sortes de choses merveilleuses pourraient exister, peut-être. J'entretiens ça pour pouvoir écrire des histoires ou surprendre les gens par des choses fantastiques.
J'ai clairement entendu chez vous cinq que vous vivez tous les cinq dans un monde assez, assez fantastique, hein. Je ne crois pas me tromper. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune? C'est rare. Il est tard, tout le monde est fatigué. Ah, si, quand même. Il faut toujours attendre un petit peu pour...
Oui, bonsoir. Je vais vous décevoir parce que ce n'est pas du tout une question. C'était juste une remarque, enfin un apport, une réflexion par rapport à ce que vous disiez, notamment sur la fin. Sur est-ce que la réalité n'a pas changé en fonction des connaissances scientifiques, j'ai forcément tout de suite pensé à ce que Freud appelait les blessures narcissiques, ces moments où l'humanité a fait des découvertes qui changeaient complètement son rapport au monde. Et donc à la réalité, il en liste 3 donc. La première, c'est la découverte que la Terre n'est pas au centre de l'univers, donc l'homme n'est plus le centre de la création, la Terre tourne autour du Soleil. La deuxième, c'est Darwin, l'homme descend du singe, mon Dieu, quelle hérésie. Et Freud, qui se sentait sûrement poussé des ailes, pense que la découverte de l'inconscient est la troisième blessure narcissique, l'homme n'est plus maître de lui-même. Et effectivement, ces découvertes-là ont sûrement changé le rapport de l'homme à la réalité. On peut en ajouter une quatrième, hein, certains éthologues parlent de cela, c'est la découverte que l'homme et l'animal ne sont pas si différentes que ça, et que ben, y a des choses que l'animal sait faire, il saurait mentir, il s'est fait preuve d'empathie, je ne raconte pas des choses, mais il y en aurait beaucoup. Et donc du coup, voilà, je voulais juste apporter ces réflexions-là sur le fait que y a des moments où les connaissances bouleversent le rapport au monde, et donc probablement la réalité... Voilà, j'espère qu'il y aura des réactions. Merci.
Ah, mais merci, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être d'autres événements? Si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a d'autres, même d'autres événements que les trois de Freud plus le quatrième de Monsieur qui bouleversent la conception de la réalité?
Ouais, ben, ça sera intéressant de trouver la cinquième. Peut-être que ça sera de prendre conscience qu'on vit dans une réalité simulée par ordinateur.
D'autres réactions? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les esprits se sont... Bon, écoutez, c'est la dernière table ronde. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous voulez changer la réalité?
Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait mon collègue et voisin quand on parlait de justement comment à propos de la recherche, etc. Moi, je vois une des choses qui m'a le plus surpris et le plus amusé, c'est la différence justement de conception des dinosaures qu'on a pu avoir depuis que je suis gosse dans les films, par exemple l'ancien King Kong, je me rappelle, de Willis O'Brien, enfin, où il y avait ces dinosaures en pâte à modeler qui étaient représentés d'une façon de se tenir, qui étaient vraiment représentés comme des lézards, etc. Et entre-temps, la recherche nous apprend, ah ben non, les dinosaures, depuis Robert T. Baker qui a dit, ah ben ils étaient peut-être à sang chaud, ah ils étaient peut-être à sang chaud, donc c'était pas des gros lézards qui se traînaient par terre. Ben non, ils pouvaient peut-être même aller vite. Puis certains disent, ah mais en fait, ils sont beaucoup plus proches des oiseaux. Alors du coup, maintenant, dans certains films, on se met vraiment à les représenter avec des plumes. Et donc on voit que la recherche nous fait changer tout le monde l'idée de ces créatures qui sont dans les films. Donc, et le cinéma, hop, rebondit là-dessus et du coup, nous propose de nouveaux dinosaures totalement différents de ceux qu'on pouvait voir, moi, quand j'étais gosse.
Sauf dans le dernier Jurassic Park. J'irai pas plus loin.
Ils sont comment ?
Qui est une régression évolutive dans la conception dinosaurienne actuelle, mais bon. Non, mais c'est vrai que finalement, la réalité, c'est. La science ou les sciences est un des outils qui permet de comprendre la réalité et les disciplines scientifiques évoluent avec les interprétations différentes sur les dinosaures, sur les reconstitutions en fait des dinosaures. On voit très bien, par exemple. Le cas d'école, c'est l'iguanodon qui avait sa queue qui traînait par terre il y a quelques décennies à peine. Et puis aujourd'hui, c'est un bipède temporaire, un gros lézard très actif. Donc il y a effectivement des petites révolutions dans les sciences qui permettent de remettre en cause aussi ces réalités. Et finalement, cette science-là n'a pas de vérité acquise. On est toujours dans une phase de recherche et de test des réalités plausibles.
Bon, on voit les sauropodes qu'on imaginait. Moi, quand j'étais gamin, je lisais les livres sur les dinosaures. Et oui, ils étaient tellement lourds qu'ils étaient obligés de vivre dans l'eau et dans les marées parce qu'autrement, ils auraient été écrasés par leur propre poids. Et maintenant, on les voit, on les imagine en troupeau carrément, traversant des plaines, etc. Et pas du tout dans l'eau, pas du tout apathique. C'est assez étonnant.
Ça nous fait une réalité qui est en changement constant. Notre présent change à la seconde, mais notre passé change à mesure que notre perception s'ajuste. Notre futur change. On a eu des modes en science-fiction, on a eu différentes manières de visualiser le futur. Tout est...
Passer de Star Trek à Mad Max.
Oui, de Star Trek à Mad Max. Et puis, tout est en fluctuation. Et puis, un beau défi peut-être là-dedans, c'est de changer nous-mêmes notre réalité, de s'emparer de ce phénomène-là et puis de trouver des manières de nous voir la réalité autrement ou de changer de notre perception, de prendre le contrôle un peu.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Peut-être d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus... On en parlait il n'y a pas très longtemps avant. En ce moment, moi, je sais que la grande mode, en particulier, en littérature jeunesse, c'est la dystopie, etc. Le futur est forcément sombre, il y a forcément des dictatures et tout va pas. Je trouve que, je dois avouer qu'à force, ça devient un peu lourd. J'aimerais bien qu'on, justement, je parlais Star Trek tout à l'heure, qu'on en revienne justement à une vision de l'homme plutôt découvrant d'autres planètes et d'autres civilisations plutôt que de se refermant sur lui-même dans des dictatures à venir. Ça serait peut-être pas mal.
De remettre un peu d'optimisme là-dedans. Donc la table ronde touche à sa fin. La question, c'était si la réalité dépassait vraiment la fiction. J'ai l'impression qu'on a répondu plutôt oui, à part dans le dernier Jurassic Park, c'est ça ? Merci à vous.